Bonjour. On va prier. Nous voulons te remercier, Père, pour ce rappel que tu nous as fait ce matin. Ce rappel que tu es intervenu dans nos vies parce que nous ne pouvions pas nous sauver et que nous avons abandonné cette prétention de le faire nous-mêmes. Et Seigneur, tu nous dis aussi que chaque jour tu peux et tu veux intervenir dans nos vies si nous acceptons de te confier leur direction, de ne plus nous conduire nous-mêmes. Seigneur, merci pour ces rappels et maintenant, veuille ouvrir nos oreilles et nos cœurs pour écouter ta parole. Amen. Ce matin, je voudrais vous faire part d'un des paradoxes de l'Évangile. Je trouve que l'Évangile est plein de paradoxes. Ma liberté est-elle en opposition avec la loi de Dieu ? Or, pour introduire ce sujet, on va lire quelques textes. Comment est-ce que j'appuie là-dessus ? Jean 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Dans l'épître de Jean, « Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. » Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Et puis Matthieu, ouais, ça marche. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Et pourtant le joug, ce n'est pas un instrument de liberté. Donc on voit que nous avons à suivre les commandements du Christ, la loi de Dieu. Mais d'autre part, il nous est dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et puis Paul dit aux Corinthiens, or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur est la liberté. La loi de Dieu serait-elle donc contraire à ma liberté. La liberté peut-elle être conçue comme une libération de toute soumission à une loi, et cela au nom de la grâce et de l'esprit? Ni Dieu ni loi, il est interdit d'interdire, ça vous rappelle quelque chose, c'est le slogan du monde. Être libre, ce n'est pas ne pas faire que ce qui nous plaît, mais c'est ne faire que ce qu'on veut faire, dit le philosophe. Et pour des chrétiens qui se disent libérés, le refus de la loi de Dieu, contrainte extérieure insupportable, devient la norme. Et ce fait n'est pas nouveau dans l'Église. L'Écriture sainte nous donne des échos de débats pareils du temps des apôtres. Et Pierre, parlant des faux prophètes de son temps, de ceux de tous les temps, ces faux prophètes qui évoquent cette liberté trompeuse, écrit « Avec des discours grandiloquents et creux, ils séduisent par les convoitises déréglées de la chair ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Ainsi, pour Pierre, cette prétendue liberté, liberté de se livrer sans frein à ses convoitises pécheresses, liberté de désobéir en bonne conscience à la loi de Dieu et de rejeter librement cette règle immuable établie par notre Créateur pour nous, nous ses créatures, ce n'est rien d'autre qu'un esclavage de la corruption, précise-t-il. Et Pierre ne fait que reprendre l'enseignement de son Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. En vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Paul, par ailleurs, avertit les chrétiens de Galatie du danger de se livrer à cette fameuse liberté. Il leur dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. On est d'accord. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie par une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La liberté, dit Paul, devient un prétexte pour vivre comme on le veut. Ici, la liberté, c'est-à-dire notre volonté, la volonté de l'homme, est séparée de la volonté de Dieu. Elle est considérée en elle-même, pour elle-même, mais la liberté n'existe qu'en fonction d'autre chose. C'est la même chose pour l'amour, d'ailleurs. L'amour de quoi ? L'amour de qui ? L'amour de soi-même au dépens d'autrui ou l'amour du prochain comme de soi-même? L'amour du Créateur ou l'amour de la créature à la place du Créateur? L'amour de bien, du bien ou l'amour du mal? Nous voyons que l'objet de notre amour est d'importance capitale. En effet, c'est la différence de but que nous donnons à notre amour, qui fait que notre amour sera soit une idolâtrie, soit une adoration, sera soit péché, soit justice. Idolâtrer l'amour comme valeur absolue, sans définir cet amour par la loi de Dieu, ce n'est rien d'autre que le péché d'Adam, décider soi-même, décider arbitrairement ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est digne d'être aimé, ce qui ne l'est pas. C'est quelque part se mettre à la place de Dieu. C'est brouiller les valeurs, c'est mettre le bien et le mal sur un pied d'égalité. Et dans ce sens, l'égalité, c'est la suprême idole de notre temps. Cette égalité abolit la différence entre Dieu et l'homme, entre le bien et le mal, entre les créatures elles-mêmes, les créatures toutes créées par Dieu pour qu'elles respectent la place qui leur a été assignée. Et en ce moment, on parle du projet de mariage pour tous, on est en plein dedans. L'apôtre Paul, lui, utilise un tout autre langage quand il parle aux chrétiens de Rome. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Ainsi, s'il nous recommande l'attachement au bien, il nous recommande aussi l'horreur du mal. L'un ne peut pas aller sans l'autre. La force de notre amour pour le bien se mesurera peut-être avec l'énergie avec laquelle nous haïrons le mal. Ce n'est pas l'amour qui est bien, ni la haine qui est mauvaise. L'amour et la haine peuvent être tous deux des vertus ou des vices, suivant les objets auxquels ils s'adressent. Et ce qui différencie le bien et le mal, c'est la sainte loi de Dieu. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Or, ce qui est vrai pour l'amour est vrai aussi pour la liberté. Notre liberté, l'inclinaison de notre volonté, nous porte-t-elle vers Dieu ou vers Satan? Notre mouvement est-il celui de la chair pour le mal ou de l'esprit pour le bien? Toute la question est là, finalement. Et le Christ nous le dit bien, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et on voit bien la continuité entre le fait de demeurer dans la parole du Christ et la liberté que nous donne la vérité. La parole du Christ, nous allons voir que ce n'est pas autre chose que ses commandements. Par la foi, le disciple obéit à la parole de Dieu. Et en le faisant, il se maintient dans la liberté de l'esprit. Là où est l'esprit du Seigneur, là est aussi la liberté. Mais cette liberté pour laquelle Christ nous a libérés n'est rien d'autre que la loi parfaite, la loi de la liberté, comme le dit Jacques, la loi unique de Dieu à laquelle nous obéissons avec joie par l'Esprit Saint. La vraie liberté, celle qui n'est rien d'autre que de faire la volonté de celui qui est, lui, la liberté, nous devons la recevoir de Dieu. L'apôtre nous explique les paroles du Christ quand il écrit « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » C'est quand il écrit aux Romains. Nous sommes ainsi libérés de cette loi du péché et de la mort par la loi de l'esprit de vie pour être libres en Dieu, pour avoir la liberté, la possibilité d'accomplir les commandements de Dieu en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Et Paul reprend encore plus clairement tout cela au chapitre 6 de l'Épître aux Romains. On lit au verset 15 « Quoi donc, pécherions-nous parce que nous ne sommes plus sous la loi mais sous la grâce ?» C'est-à-dire que maintenant que nous sommes libérés du péché par la grâce de Dieu, maintenant que la loi de Dieu nous ne condamne plus, parce que Christ a été condamné à notre place, est-ce pour cela que nous sommes libres de péché en toute bonne conscience, de vivre à notre guise selon nos désirs, nos lubies ? Certes non, répond l'apôtre Paul. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. Libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour aboutir à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour aboutir à la sanctification. Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous ? Des fruits dont vous avez honte maintenant, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant, libéré du péché, esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi, nous dit l'apôtre, la vraie liberté conduit à l'obéissance et même à la justice, à la conformité de nos vies à la règle de doctrine, ce qui nous mène à la sanctification. Et l'aboutissement, c'est la vie éternelle. En conséquence, si on fait une opposition entre loi et liberté, c'est vouloir idolâtrer une fausse liberté sans bornes, la liberté de péché. Opposer la liberté à la loi, opérer une séparation entre la liberté en Christ et l'obéissance à la loi de Dieu est non seulement contraire à l'enseignement de l'Écriture, mais conduit ceux qui se soumettent à un tel esclavage, celui d'une liberté sans loi, à l'étouffement de leur conscience. Ils ne discernent plus la différence radicale entre le bien et le mal et en viennent à accepter toutes les impulsions de la chair comme des choses bonnes. Une telle complaisance à l'égard de soi-même conduit au culte si répandu aujourd'hui, le culte du moi sacro-saint, culte de l'homme. Et sur le plan politique, on va dire, au règne de celui que la Bible appelle l'impie, l'homme de l'iniquité, littéralement l'homme sans loi. Celui que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, qu'il écrasera par l'éclat de son avènement, nous dit l'Épître aux Thessaloniciens. Est-ce qu'on peut imaginer une liberté quelconque sans une discipline de loi? La liberté de circuler en voiture est fonction du respect par tous du code de la route. La liberté de jouer d'un instrument de musique, les musiciens, dépend d'abord de notre soumission à la partition musicale, ou pour le moins aux règles de la musique. La vie sociale et morale des hommes est elle aussi soumise aux règles du bon sens au moins. Mais pour nous, on peut se poser une question. Qu'est-ce donc que la loi de Dieu? Alors on a souvent été habitué à donner une portée assez restrictive à la notion de loi de Dieu. Souvent, elle a été limitée à la notion de la loi de Moïse, la législation donnée par Dieu à travers Moïse pour le peuple d'Israël. On va voir que l'expression de cette expression biblique est beaucoup plus large qu'on peut l'imaginer. D'abord, la loi de Moïse ne peut être opposée à la loi de Dieu, la loi de l'Éternel. Souvenez-vous, quand au temps du roi Josias, on retrouva le livre de la loi. C'était les premiers livres de la Bible, le Pentateuque. Il en fut parlé ainsi, c'est dans les Chroniques. Le prêtre trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. La loi de l'Éternel donnée par Moïse. Ainsi, on voit que la loi de Moïse n'est rien d'autre que celle de l'Éternel. Et puis, au temps de Néhémie, le retour de l'exil de Babylone, quand il renouvelle l'alliance avec d'Israël avec son Dieu, et on lit dans Néhémie, ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu qui avait été donnée par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses préceptes et ses lois. Il est donc évident que la loi de l'Éternel, la loi de Dieu et la loi donnée par Moïse sont des expressions qui recouvrent une même réalité. Alors si la loi de Moïse est bel et bien la loi de Dieu, elle est par conséquent une loi qui dépasse singulièrement le peuple d'Israël. Si elle a été transmise à Israël par Moïse, elle l'a été aussi pour tous les hommes, pour toutes les nations. Car cette loi, étant la loi de Dieu, révèle la pensée même de Dieu, le Créateur. pensée qui établit l'ordre et le vrai sens de toute chose. C'est de cette universalité de la loi de Dieu que nous parle l'apôtre Paul quand il écrit aux Romains. Il leur dit quand les païens qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas la loi, font naturellement ce que prescrit la loi. Eux qui n'ont pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent par là que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur propre conscience en témoigne. Nous pouvons conclure que tous les hommes, et non seulement les juifs, sont soumis au pouvoir et à la législation souveraine du Créateur, parce qu'en tant que Créateur, il est le seul apte à donner à ses créatures une loi conforme à leur nature. Or, certains distinguent subtilement la loi de Dieu des commandements de Dieu, préférant les commandements comme étant moins contraignants que la loi. Mais ce n'est pas l'avis de l'Écriture. Nous avons vu dans le texte de Néhémie que suivre la loi de Dieu était exactement la même chose que pratiquer ses commandements. Pour Paul, lui aussi qui parle des œuvres de la loi, ces deux expressions sont équivalentes. On peut simplement affirmer que la loi de Dieu contient les commandements, les préceptes et les ordonnances de l'Éternel. Alors si certains distinguent la loi ou les commandements de Dieu de la parole ou des paroles de Dieu, c'est pas l'avis du Christ qui disait à la fin du sermon sur la montagne « Quiconque entend mes paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Il confirme ainsi ce qu'il avait affirmé au début de ce même sermon quand il affirmait qu'il ne disparaîtrait de la loi, ni un seul iota, ni un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit accompli. Et il ajoute, celui qui violera l'un de ces petits commandements, qui enseignera aux hommes à les violer, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Il apparaît donc évident que la parole de Dieu, les paroles du Christ, la loi de Dieu et le commandement du Seigneur sont des expressions différentes, souvent utilisées par la Bible pour recouvrir des aspects variés d'une réalité unique. Cette réalité, c'est la révélation normative et écrite de Dieu. Quoi d'étonnant dans cette uniformité ? Puisque Jésus-Christ est Dieu lui-même et que la loi donnée par Moïse vient de ce même Dieu créateur, législateur et sauveur. Nous devons par conséquent constater qu'il n'existe aucune opposition entre les Écritures, la loi de Dieu donnée par Moïse et les paroles du Christ. La loi de Dieu, c'est l'Écriture sainte, la parole même de Dieu, Ancien et Nouveau Testament. D'autres encore opposent la vérité à la loi de Dieu. Et pour ce faire, elles se basent sur le célèbre texte du prologue de Jean. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais rien dans ce texte met en opposition loi et vérité. Moïse et Jésus-Christ. Rien non plus ici n'oppose loi et grâce. Jésus-Christ, c'est une étape de plus, l'étape ultime de la révélation de la grâce. Et une étape de plus n'implique pas opposition ni contradiction, mais révèle plutôt une confirmation. C'est d'ailleurs ce que nous prouve l'apôtre Paul quand il affirme aux Romains toujours « Nous avons dans la loi l'expression parfaite de la connaissance et de la vérité. » Et la vérité, c'est la parole du Christ, c'est du moins ce qu'affirme Jean dans son évangile. La loi, les commandements, l'écriture, la parole de Dieu ne sont autre chose que la règle de notre foi, utile pour confondre tout ce qui s'oppose à la sainte doctrine, dit Paul à Timothée. Et il dit encore, toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, atteigne son développement, autrement dit, et qu'il soit à toute bonne œuvre. Or, ceux qui se permettent d'attaquer la loi de Dieu en l'opposant à la foi et à la grâce portent tout simplement atteinte à la vérité, à la parole de Dieu. En fait, ils s'attaquent à Dieu lui-même. C'est d'eux aussi que parlait déjà le deuxième psaume. Si on lit le psaume 2, les versets 2 et 3, « Les rois de la terre se soulèvent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et son oint. Rompons leurs liens, rejetons loin de nous leurs chaînes, disent-ils. Ces liens et ces chaînes qui répugnent tant notre siècle, sans Dieu ni loi, ne sont autres que les cinq commandements de la loi divine. Et les dernières exhortations de la Bible s'adressent entre autres à ceux qui contestent cette loi. Apocalypse 22, verset 19. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu lui retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Et cet avertissement-là est un simple écho à ce que disait Moïse dans le Deutéronome. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Et c'est dans cette perspective de l'identité des commandements de Dieu et de la parole de Dieu que nous comprenons mieux ce que Jésus voulait dire quand il affirmait au sujet de l'un de ses petits commandements que celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, il est à notre porte. Il y en a qui disent c'est pour vendredi. Bon, peut-être pas vendredi. Mais et Pierre nous dit la fin de toute chose est proche. Christ revient bientôt. Alors, soyons ambitieux pour ce royaume des cieux. Être grand pour le royaume éternel est une riche perspective. Ne nous contentons pas d'ambitions médiocres, soyons ambitieux. Amen.